bonjour à vos fidèles auditeurs de la VOA. Merci de suivre votre santé, votre avenir, le programme santé de la Voix de l'Amérique qui vous est présenté par Malik Salani. La prévalence médiane de l'épilepsie a été évaluée à environ 15 pour 1000 selon une étude menée par des neurologues et des chercheurs africains sur l'épilepsie en Afrique subsaharienne en 2012, ce qui en fait une pathologie neurologique assez fréquente dans cette partie du continent. 3 patients sur 4 n'ont pas accès aux soins et à l'information de qualité et sont souvent marginalisés. Comment peut s'organiser la lutte contre cette maladie sur le continent? Quelle stratégie doivent être mises en place pour combattre efficacement l'épilepsie en Afrique?
Pour les gouvernements africains, ils doivent amener beaucoup de docteurs maintenant, influencer la jeunesse d'aller étudier la neurologie. Ils doivent aussi aider les malades sur le plan social et culturel, c'est-à-dire enlever la stigmatisation, introduire les lois qui disent que c'est punissable. Ils doivent sensibiliser sur l'épilepsie et montrer que les malades atteints de l'épilepsie peuvent travailler et peuvent être productifs dans la société.
Voilà les questions auxquelles répondra notre invitée, Madame Chantal Kanyabutimbo, qui est la directrice exécutive de GECO Rwanda, une association d'aide aux malades épileptiques. Elle répondra aussi aux questions que vous avez laissées sur la page Facebook de VOA Afrique.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
C'est le moment de suivre notre discussion avec Madame Chantal Kanyabutimbo, directrice exécutive de GECO Rwanda. Bonjour Chantal, très ravie de vous avoir encore dans cette émission pour parler de la lutte contre l'épilepsie.
Bonjour Nanita.
Vous êtes non seulement la directrice exécutive de GECO Rwanda, mais aussi la fondatrice de cette association qui lutte contre l'épilepsie au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette association?
Par rapport à la lutte contre l'épilepsie, c'est-à-dire j'ai remarqué qu'il y avait encore 70% de la population qui ne comprenait pas qu'est-ce qu'est l'épilepsie et comment vivre avec un patient qui a l'épilepsie. Et la part des choses qui m'avait aussi motivée, c'était d'améliorer la santé maternelle des enfants sur la prévention de l'épilepsie, sur le trauma, et de porter garant à la nation d'avoir une société nationale contre l'épilepsie qui peut se connecter aussi à d'autres associations internationales pour la lutte contre la maladie.
Parmi les raisons qui vous ont poussé à créer la Fondation GECO Rwanda figure l'amélioration de la santé maternelle. Quel est le rapport entre la santé maternelle et l'épilepsie?
C'est parce que dans notre région, nous avons remarqué que souvent l'épilepsie, beaucoup attrape ça à la naissance, c'est-à-dire dans les préonatales, c'est là où les parents, quand ils n'ont pas la césarienne, il n'y a pas d'hygiène et ils n'ont pas par exemple d'oxygène, les ICU, quand on délivre l'enfant dans la méthode qui n'est pas correcte, l'enfant là attrape les traumatismes crâniens et c'est là qui amène l'épilepsie. Et aussi sur l'hygiène maternelle, c'est quelque chose qui fait la prévention de l'épilepsie à 70% en Afrique.
Pour mener à bien la lutte contre l'épilepsie, quelles sont les stratégies que vous utilisez au sein de GECO Rwanda?
Au sein de GECO Rwanda, nous utilisons par exemple la prévention sur la maladie, c'est-à-dire que nous collaborons avec l'hôpital du district et tous les hôpitaux, toutes les cliniques nationales qui sont dans la province de l'Ouest, c'est-à-dire Ouest. Nous aidons au fait la progression et puis les plaidoyers sur, par exemple, les préonatales, comment délivrer l'enfant, les midwives, on fait des trainings sur ça. On améliore leur santé maternelle. Sur la nutrition aussi, on recommande les dames de prendre aussi une bonne nutrition qui est équilibrée, les fibres et puis le carbone aussi, les légumes, pour que le bébé évolue bien dans les seins maternels. Mais nous faisons aussi le parvoi, par exemple, sur la nutrition des malades. Et la nutrition des malades est très nécessaire. Et nous faisons aussi les plaidoyers que le gouvernement aussi donne des médicaments pour les malades. Et à partir de 2016, nous avons vraiment acquis tout ce que nous voudrions sur les malades.
Vous aviez acquis tout ce que vous vouliez, comme quoi par exemple?
Nous avons 4 prescriptions nationales et c'est vraiment gratuit pour notre société nationale. Tout le monde a accès à ça.
Cela signifie que vous avez un partenariat avec le gouvernement?
Nous avons un partenariat avec le gouvernement, le ministère de la Santé, et nous avions obtenu aussi l'accès avec aussi la Fédération de l'handicap international qui a travaillé avec nous pour l'inclusion des projets sur les nutriments aussi. Donc, c'est-à-dire que nous devions faire des projets pour que ces malades aussi, effectivement, parce qu'ils ne sont pas traités bien dans la communauté, n'ont pas de travail, sont dans le chômage, d'avoir des projets agroalimentaires dans la région.
Cela fait combien de temps depuis que l'ONG GECO Rwanda existe?
GECO existe depuis 2010. Et c'est vraiment une association qui a travaillé beaucoup pour le bien-être des malades.
Est-il possible de savoir de façon approximative le nombre de personnes que l'ONG a déjà aidées à surmonter la maladie?
Dans la province de l'Ouest, c'est 350 malades.
Et vous couvrez tout le Rwanda ou juste la province de l'Ouest?
C'est la province de l'Ouest, mais c'est GECO qui a fait les plaidoyers au gouvernement d'ouvrir le bureau national à travers moi et les secrétaires exécutifs. Donc, nous avons demandé à l'Handicap international et au département de santé mentale d'ouvrir le bureau national afin que d'autres provinces aussi soient couvertes. Et GECO avait demandé aussi le partenariat des autres associations qu'ils ont formées dans d'autres sous-provinces, à l'est, au nord, à l'ouest, au centre, et ils se sont mis ensemble.
Quel est le nombre approximatif des personnes souffrant de l'épilepsie au Rwanda?
Le nombre de malades qui souffrent d'épilepsie au Rwanda maintenant arrive à 600 000 malades parce que maintenant, ils représentent 54,7% de ceux qui sont affectés par la neurologie. 600 000 malades dans tous les pays.
Est-ce que vous pensez que vos actions aident beaucoup de personnes à surmonter la maladie et même à guérir?
Oui, par exemple, sur mon cas, j'avais attrapé l'épilepsie à l'âge de 11 ans. En faisant mes études au Rwanda, j'ai raté mon graduat, c'est-à-dire les diplômes de secondaire à cause de mes crises. Mais quand je parle de mon histoire et je fais des recherches et j'écris, les gens commencent à venir vers moi et me dire comment je peux aider mon enfant, par exemple. J'ai toujours demandé à tous ceux qui sont professionnels et non professionnels de se mettre ensemble et parler et être ouverte à ça. Parce que c'est toujours un tabou dans la société, que quelqu'un parle qu'il est malade.
C'est vrai que c'est un tabou. L'épilepsie, c'est l'une des maladies taboues dont on ne parle pas souvent en Afrique. C'est pas facile de trouver des gens qui évoquent facilement leur propre maladie. Pouvez-vous relater à nos auditeurs comment votre maladie a commencé? C'est vrai que vous en aviez déjà parlé dans une de nos éditions précédentes.
Oui, la maladie, c'est un tabou parce que la plupart des gens croient que l'épilepsie vient du fétichisme, c'est-à-dire du masochisme, et ils croient toujours que ce sont des liens familiales. Et ils ne comprennent pas que l'épilepsie, c'est-à-dire des pathogènes, des germes qui peuvent créer cette maladie, comme la méningite, la typhoïde, la malaria cérébrale, et aussi avec les tumeurs du cerveau, des modifications génétiques, par exemple, dans le cerveau. Et tout ça sont quand même des causes et la plupart des gens ne comprennent pas. Et quand vous regardez sur le plan continental, ça a été parlé pendant des années que vraiment il n'y a pas trop d'études scientifiques sur l'épilepsie en Afrique. Et il y a peu qui sont associés. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas instruits pour comprendre que la maladie peut être donc déjà.
C'est exactement l'une des préoccupations principales de nos auditeurs. Christian Fils Alphonse Toumba, Joao Paulo Nsangu, le meilleur Noël Gustave, Koudia Boubouku-Bonza, eux tous ils disent que c'est une maladie de la sorcellerie, ce sont des gens qui sont envoûtés, pour qu'ils ne se développent pas, pour les freiner à étudier. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces personnes qui pensent que la maladie là est d'origine spirituelle?
Sur le plan spirituel, ce n'est pas réel parce que je trouve que beaucoup de gens associent ça, même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ils disent que les démons, ils ont jeté ça dans une grosse partie dans la mer, etc. C'est la mythologie, la cause de la maladie et la personne, et la maladie peut partir. Mais je ne peux pas dénier que toute maladie, c'est Dieu qui guérit et c'est Dieu qui est le créateur et il peut faire le bien. On peut bien de croire à ça, que ce sont des sorciers qui peuvent guérir, mais nous devons y faire pour la lutte contre l'épilepsie, avec les gens-là qui sont appelés les sorciers, c'est-à-dire comme en anglais, witchcraft doctors, ce sont des docteurs traditionnels respectés en Afrique. Nous devons aussi les engager dans la lutte contre l'épilepsie. Parce que par exemple, moi j'ai déjà reçu un enfant ici au Rwanda. Elle a eu des circoncisions sur le ventre. À travers ses parents, ils croient à ça, que c'est ça qui va guérir l'enfant. Au lieu de ramener l'enfant chez un docteur qui peut améliorer la santé de l'enfant, les parents ont abandonné. Et maintenant, l'enfant a une paralysie. Et la paralysie, là, c'est dû à quoi? Parce que, donc, ils ont pris trop de temps dans les rites sacrés au lieu de guérir l'enfant. Quand l'enfant tremblait, donc, faisait des cris, ça endommageait aussi la colonne vertébrale, c'est-à-dire sa moelle épinière, et l'enfant est devenu maintenant...
Cette situation a dû entraîner des conséquences tragiques pour l'enfant.
Il doit être transporté, il ne peut pas aller à l'école seul. Des trucs que, normalement, les gens qui croient au monde, ils doivent aussi nationalement appuyer ces docteurs-là et c'est avec les chercheurs pour comprendre que la maladie aussi peut être à l'origine des pathogènes, des germes et des bactéries.
Ça introduit la question d'un auditeur qui ne nous a pas certainement suivi, Sangou, qui se demande si cette maladie peut être guérie. Ben Benoît Congolais demande comment la médecine moderne arrive-t-elle à traiter cette maladie.
Quand vous commencez le traitement, un docteur doit avoir aussi ce qu'on appelle l'encéphalogramme. Mm-hmm. L'encéphalogramme, c'est quelque chose qui peut aider le docteur de détecter partie du cerveau qui a un problème. Parce qu'il y a différents types d'épilepsie. Il y a les absences. Il y a par exemple l'épilepsie partielle, complexe, générale. Et il y a les toniques, les seizures. Il y a beaucoup de types d'épilepsie. Mais il doit savoir comment traiter ça et quelle molécule est appropriée à ce type-là. Par des recherches, on a trouvé qu'il y a des crises qui doivent être traitées particulièrement par même 2 à 3 molécules. Donc, tu peux trouver un malade, prendre la gabapentine, la dépakine, et il prend en même temps, par exemple, l'autre qui l'aide, par exemple, à dormir, par exemple, un autre sédatif, le Valium.
Kwaku Paulin Kouadjo, il écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il aimerait savoir si l'épilepsie est une maladie héréditaire.
Il y a des recherches qui ont prouvé ça, que deux fois, ça peut venir aussi par des modifications génétiques. Quand tu vois que dans la famille, il y en a plus que 4 qui ont déjà eu cette maladie, il faut faire des recherches de près pour savoir. Mais cela ne doit pas être quelque chose qui doit amener la peur. C'est traitable, même si c'est génétiquement transmis, c'est traitable et puis quelqu'un peut ne pas... Donc, il peut contrôler son épilepsie, travailler et être aussi productif contre toute personne dans la société.
Donc, dans certains cas, c'est transmissible, c'est héréditaire, mais dans d'autres cas, non. D'accord. Alphonse Mbouaki se demande si un épileptique peut aller à l'école, suivre ses cours normalement, et avoir un diplôme, travailler, se marier, avoir des enfants, donc avoir une vie normale.
Oui, il est possible d'étudier. Par exemple, moi j'ai étudié, j'ai fini mes études, je suis productive, donc autonome, et je suis respectée. C'est traitable et je crois que tous peuvent avoir du travail. Mais le problème, qui cherchent du travail, dès qu'ils disent qu'ils ont l'épilepsie, surtout en masque, ils ne le prennent pas au sérieux, ils ne peuvent pas leur donner du travail. La plupart sont engagés dans ce qu'on appelle les ressources humaines. Ils trouvent que ça va être beaucoup de charges pour la société. Par exemple, si ils tombent chaque fois au travail, les risques sont acquis. Et c'est de là que tu vois qu'ils excluent de la société. Il n'évolue pas bien.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Donc, ce n'est pas l'épilepsie qui rend les malades incapables de travailler, mais c'est la société qui ne veut pas leur donner cette opportunité de s'intégrer, d'être utile. C'est la société qui veut les tenir à l'écart simplement parce qu'ils sont malades.
Les gens qui ont la maladie, la plupart, ils étudient, ils finissent leurs études, mais trouver l'emploi, c'est difficile.
Alors, pourquoi?
Quand ils commencent l'emploi, ils doivent cacher qu'ils sont malades. Ils doivent le faire. Mais si son boss regarde, il sait qu'il a l'épilepsie, le jour de l'interview, il lui dit non, on ne préfère pas toi. Va d'abord quand tu seras guéri, tu vas venir. Le temps passe et la personne perd.
Comme l'épilepsie peut prendre des années à guérir, comment est-ce qu'il faut faire pour éviter l'exclusion sociale ou l'exclusion du travail des personnes souffrant de l'épilepsie?
Il y a des malades qui ont 8 ans pour guérir complètement. Ça dépend de quand il a commencé la thérapie. Parce qu'il y a ceux qui prennent, par exemple, dès la thérapie, ils vont directement chez les docteurs. Cela, deux fois, ne dépasse pas 6 ans dans la thérapie. Après 5 ans, après 3 ans, donc c'est déjà comptable. Ils peuvent faire toutes leurs activités, ils peuvent travailler. Personne ne saura jamais s'il est dans les molécules parce qu'il peut avoir juste une dans l'année ou bien dans les 6 mois. Mais ceux qui traînent de prendre les médicaments ou bien qui ont vraiment subi, par exemple, des accidents, alors c'est là, ça peut même prendre 20 ans dans le médicament. Et tu ne peux pas cacher. Donc, le médicament ne peut contrôler ça sans. Ça peut être difficile.
Comment on peut faire pour lutter contre l'exclusion sociale ou l'exclusion du travail des malades?
Pour lutter contre l'exclusion sociale, ça vient par les élites politiques du pays parce que ça vient par la justice de ce qu'on appelle les Human Rights Commission, c'est-à-dire le droit de l'homme. Et le droit de l'homme a déjà ce qu'on appelle l'Union nationale pour la Convention des personnes qui ont l'handicap. Cette loi a été à partir de 2006, mais il y a beaucoup de pays maintenant, comme l'exemple du Mali, où ils ont fait la ratification de ça dans l'Union africaine le mois passé, et ils ont maintenant le privilège de contrôler les malades qui ont l'épilepsie, de les mettre dans l'Union nationale des gens qui ont l'handicap. Même si vous ne pouvez pas savoir comment, dans 10 à 15 ans, ils seront peut-être, ils peuvent être plus pires que ça, ou ils peuvent avoir aussi ce qu'on appelle la paralysie. L'État du Mali avait fait ça et nous avons été fiers d'eux, par exemple, sur la ratification qu'ils ont signée le mois passé est vraiment phénoménale.
D'autres pays suivent-ils l'exemple du Mali?
Nous attendons aussi d'autres pays de mettre les malades dans ce qu'on appelle la disabilité, donc l'handicap national et handicapé. Parce que l'Union des handicapés dans beaucoup de pays d'Afrique considère les handicapés physiques, on ne considère pas les handicapés mentaux. Les handicapés mentaux, souvent, ils n'ont pas d'orientation ou la société nationale. Et c'est à ça que nous, par exemple, ici au Rwanda, vous trouvez que nous devons être la société nationale, comme au Kenya aussi, il y a la société nationale pour la coordination de tous les projets des malades et des provinces qui ont fait ça. Et c'est vraiment dynamique. Et tu trouves ça maintenant, même en Afrique du Sud, il y en a, au Nigeria, il y en a. Nous prédoyons aussi la CDAO de prendre ça en charge.
Quelles sont les stratégies qui doivent être mises en place pour combattre efficacement l'épilepsie en Afrique?
Pour combattre ça en Afrique, il faut améliorer la propreté d'abord, l'hygiène dans l'environnement. Un bon exemple du Rwanda où, par exemple, chaque fin du mois, tout le monde va dans la rue, il nettoie devant la maison. Sur le plan de l'eau, il faut que le gouvernement mette la sanitation qui est vraiment bien, les infrastructures bien pour l'eau, par exemple, consommée par les enfants. Sur l'infrastructure, les élèves dans leurs écoles, les toilettes doivent être propres, ils doivent avoir des toilettes avec de l'eau. Quand ils quittent dans la toilette, ils doivent se laver de bien. Une autre chose que je dois dire, c'est comment les parents doivent préparer pour leurs enfants. Ils doivent vraiment bouillir bien l'eau potable que les enfants doivent boire. Sur l'alimentation, par exemple, ils doivent bien cuire la nourriture, mais en 90 degrés. Et tout ça peut diminuer ça. Et sur la section de mettre au monde un bébé, par exemple, tous les gouvernements doivent regarder sur le C-section, donc c'est-à-dire la césarienne, que ça soit valable dans les hôpitaux, les oxygènes, les incubations des enfants, les trainings qu'ils doivent donner aux femmes sages pour délivrer bien les bébés sans faire des traumatismes crâniens aux enfants. Les femmes qui sont diabétiques doivent délivrer leur bébé avant 8 mois à 7 mois et ils doivent contrôler bien leur grossesse. Et tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Une autre chose qu'on peut faire, c'est adopter le plan national comme ici nous le faisons sur le mutuel de la santé, c'est-à-dire l'assurance de la maladie de tout le peuple. Donc nous payons leurs médicaments à travers nos taxes et cela aide vraiment à réduire les risques de mort pour les malades. Et aussi nous veillons à regarder sur le nutriment des malades. Nationalement.
Une autre question qui nous vient de Kwaku Paulin Kwadjo depuis la Côte d'Ivoire, c'est celle de savoir si l'épilepsie peut atteindre les personnes âgées.
Oui, les personnes âgées aussi peuvent avoir ça parce qu'ils sont dans les risques d'avoir de la paralysie cérébrale. Même les jeunes qui sont entre 45 et 65 ans, souvent, vous les trouvez avec ce qu'on appelle le AVC et ils peuvent toujours avoir des lésions cérébrales qui amènent aussi l'épilepsie. Donc l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse, ça vient à partir des accidents cérébrales. Ça peut venir aussi par des accidents. Tu fais un accident par moto, tu tapes ta tête, tu cognes ta tête sur le lymphate. Donc tu peux avoir ça aussi à partir de l'accident.
Si nous considérons la raison des accidents que tout le monde peut faire, cela signifie que tout le monde est à risque.
Tout le monde peut avoir ça, oui.
Hassan Québec Omar, je pense que c'est sa contribution, il parle de la sensibilisation par l'éducation.
Oui, nous faisons aussi la sensibilisation dans les écoles. et dans les écoles rurales et même dans les écoles privées. Mais ce que nous veillons faire sur le plan national ici, c'est sensibiliser le protocole de ce qu'on appelle le network de professeurs. Les professeurs aussi doivent faire la sensibilisation et même les malades avec les malades. Donc, ils doivent s'associer pour se prédoyer.
Pourquoi est-il important d'associer les enseignants à la lutte contre l'épilepsie?
Parce que les enseignants, ce sont eux qui ont les élèves chaque fois à l'école. Donc, ils vivent avec eux, c'est comme leurs parents. Et ces enseignants doivent savoir, par exemple, comment faire les protocoles paramédiques. Par exemple, si un enfant tombe, il y a une façon de le positionner dans la classe. Il y a une façon de préparer tous ses collègues, de ne pas rigoler ou d'être amis à leur frère. S'ils sont dans la salle, ils doivent quitter un peu sans faire beaucoup de bruit ou dire « Ah, il va me contaminer » ou quoi et quoi, sans faire la panique. Et tout ça, et puis après la crise, comment le malade, on le met en position bon. Si le malade récupère, l'élève récupère sa conscience, le professeur doit demander « Tu te rappelles de moi ?» Je suis qui ? S'il répond, vous êtes professeur, ok. « Tu as mal à la tête ?» Oui. On peut partir dehors, tu lui donnes de l'eau à boire, tu l'accompagnes dans la salle de repos. Il dort parce qu'il peut avoir des maux de tête, des migraines. Il dort même pour 30 minutes. Vous pouvez chercher même la bouillie ou bien comme les Fanta, les trucs sucrés qu'il peut boire ou bien de l'eau. Il boit et puis quand il se réveille, il dit qu'il n'a pas mal à la tête, ça va. Vous pouvez préparer aussi par exemple la paracétamol pour lui donner. Si la migraine persiste, il doit partir à la maison et se reposer. S'il ne peut pas continuer le même jour à étudier, il doit aller à la maison. Et il doit toujours avoir un professeur qui s'occupe d'eux, comme on appelle en anglais les assistants professeurs, qui peut encore accompagner l'enfant jusqu'à la maison. Parce que cet enfant, vous ne pouvez pas lui dire « retourne chez toi ». Il peut perdre la mémoire, il ne sait plus encore chez eux c'est où. Et il peut même mourir dans le parcours.
Des accidents pareils peuvent effectivement arriver.
Il est toujours mieux de l'accompagner jusque chez eux s'il est en mauvais état. Et si ça persiste, vous devez partir à l'hôpital. Vous devez aussi demander aux parents si l'enfant a bu le médicament. Si ce sont des écoles qui doivent travailler du matin jusqu'à 16 heures, par exemple, dans l'après-midi, il doit toujours avoir un professeur qui lui demande « Est-ce que tu as bu ton médicament ?» Il doit toujours le suivre pour ne pas couper le dose.
Toutes ces précautions vont aussi contribuer à la guérison du malade, même si beaucoup croient que la maladie est difficile, voire impossible à guérir.
Oui, c'est mon exemple. Je suis guérie maintenant. Ça fait des années, je n'ai plus de crise et c'est possible de guérir parce que même s'il part dans ce qu'on appelle des recherches dans l'OMS, il va trouver que 70% des gens atteints de l'épilepsie guérissent à 100%, 30% restent au moins malades. Mais ceux qui suivent la thérapie, ils ont par exemple des crises partielles, complexes, généralisés, qui ne sont pas très, très accentués aux tumeurs, aux accidents centrales cérébrales, ils peuvent quand même guérir 70% d'eux.
Quelle est la contribution du malade et de la famille dans ce processus de guérison?
La famille doit se porter garant que cet enfant vit d'une maladie chronique et il a une fatigue très chronique. Et en ça, ils doivent les traiter quand même. Il est de même que les autres, mais s'il dit aux parents « je suis fatigué », tu ne peux pas lui dire d'aller cuisiner. Et souvent, je dis aux Africains, il ne faut pas donner le travail de la cuisine à l'enfant qui a l'épilepsie. Parce que l'épilepsie ne peut pas prévenir quelqu'un. L'enfant, là, peut tomber dans le feu, il peut tomber dans un endroit très dangereux, il peut avoir le couteau et se couper. Et tout ça, nous devons nous porter responsables de ça. Mais les parents aussi, ils doivent comprendre, même s'ils amènent cet enfant à l'école, cet enfant, s'il se sent mal à l'aise, il demande de rentrer à la maison, on doit le laisser rentrer. Et s'il dit que l'examen, aujourd'hui, je n'arrive pas, j'ai déjà fait une crise, j'ai oublié toute chose. Les directeurs aussi, si c'est un chancelier de l'université ou bien à l'école secondaire, leur directeur, il doit lui donner la chance de faire l'examen dans la semaine, mais pas en même temps que les autres.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Pour terminer, Chantal, quel est votre plaidoyer? Qu'est-ce que vous attendez des gouvernements africains, des autorités locales africaines, comme leur contribution dans la lutte contre l'épilepsie?
Pour les gouvernements africains, ils doivent suivre ce qu'on appelle la résolution 73.10 qui a été déclarée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Comment ils doivent lutter contre l'épilepsie dans leur secteur de la santé, dans les recherches, c'est-à-dire ils doivent amener beaucoup de docteurs maintenant, donc influencer la jeunesse d'aller étudier la neurologie. Ils doivent aussi aider les malades sur le plan social et culturel, c'est-à-dire enlever la stigmatisation, introduire les lois qui disent que c'est punissable, comme la façon ils ont éradiqué l'albinisme. Maintenant, ils doivent partir sur l'épilepsie et montrer que vraiment ces malades ont du travail dans leur société. Ils s'en sortent bien pour au moins changer les concepts des rituels, c'est-à-dire de croire à la magie noire, etc., et au vaudou. L'autre paroisse, c'est dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, ils doivent introduire ce qu'on appelle la sensibilisation. La sensibilisation dans les écoles doit entrer dans l'agenda. Comme ils ont sensibilisé sur l'albinisme, ils doivent sensibiliser sur l'épilepsie et montrer que les malades atteints de l'épilepsie peuvent travailler et peuvent être productifs dans la société. Ce n'est pas bien qu'ils soient toujours charitables à attendre l'argent pour vivre. Eux aussi, ils peuvent être des gens demain qui peuvent être des docteurs, ils peuvent être des ingénieurs et ils peuvent créer leur société. Je crois que la plupart des gouvernements prendront en charge ça dans les temps à venir et je crois que l'Union africaine travaille sur ces plans dans l'affaire sociale. Parce que nous trouvons aussi que la CDAO est maintenant intéressée à aider ses plaidoyers à travers l'Épilepsie Alliance Afrique.
Merci beaucoup Chantal d'avoir été notre invitée. Au revoir.
Merci beaucoup Nanit.
C'était notre discussion avec Madame Chantal Kanyabutimbo, la directrice exécutive de GECO Rwanda, cette association d'aide aux malades épileptiques. C'est aussi la fin de ce programme Votre santé, votre avenir. Cette édition était structurée autour des stratégies de lutte contre l'épilepsie. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.